Nous sommes aujourd'hui avec Mikai Montanaro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes compositeur, musicien multi-instrumentiste, plus de 40 albums à votre actif. Vous jouez notamment de cet instrument.
Et je suis vieux aussi.
Hein. Et vous êtes vieux aussi.
Ça explique.
On n'a pas l'image, donc
le
on
nombre
pas
de
savoir.
D'albums. Et je suis tellement vieux que j'ai pu passer la main sur la compagnie Montanaro à mon fils qui s'appelle Balthazar Montanaro et qui mène maintenant ce projet-là, qui est directeur artistique. Donc du coup, ça a disparu de mon CV. Je ne suis plus directeur artistique ni de la compagnie Montanaro, ni du chantier d'ailleurs que j'ai créé à Corrance et où on pourra venir écouter des musiques aussi le week-end prochain dans notre jardin de Provence verte.
Voilà. En tout cas, pour préciser que votre instrument principal, c'est le galoubet tambourin, c'est ce duo instrumental de la Provence.
Alors ça, c'est vraiment qui est devenu l'instrument symbolique de la Provence à partir du 19e siècle, parce qu'on en jouait ailleurs, hein, dans d'autres régions, dans d'autres coins du monde. Mais depuis le 19e siècle, c'est devenu l'instrument fétiche de la Provence, un instrument de la société, de la ville en fait, beaucoup plus que de la campagne, société des employés de bureau qui jouaient de cet instrument en plus, des gens, quand on voit les vieilles photos, les gens sont toujours très bien habillés, mais en costume de ville habituel, beaucoup. Après, il y a eu les groupes folkloriques qui ont mis un costume spécial du 19e siècle, le costume de farandoleur souvent. Mais c'est un instrument en même temps de musique qui peut tout jouer. Ici à Manosque, vous avez Sébastien Bourelli qui est un interprète de musique contemporaine du galoubet et professeur conservatoire. Voilà, il y a beaucoup de musiciens plus jeunes que moi qui jouent de cet instrument maintenant de façon tout à fait libérée de contraintes folkloriques. Ils en ont repris l'instrument. Par contre, la culture provençale est toujours à l'intérieur de l'instrument. Et puis, c'est un marqueur. Il suffit de le sortir pour que les gens ne voient plus que ça.
Il y a aussi, vous parliez de photos tout à l'heure, mais il y a aussi toute une iconographie provençale avec beaucoup de gravures, de dessins. Avec
les santons.
Les santons, bien sûr.
C'est très pratique, en fait. Pour quelqu'un qui joue de la musique contemporaine, c'est très pratique parce que quoi que je fasse, je viens toujours de Provence. Je suis toujours marqué venant de Provence. Même si je joue la musique la plus barrée possible, où il n'y a pas trois notes qui se suivent, qui ressemblent à de la musique provençale, des fois c'est presque bruitiste, ça fait rien. On voit toujours la Provence à l'intérieur du musicien et surtout de l'instrument qui est manié. Quoi.
Oui, parce qu'à noter que vous êtes l'un des premiers ou le premier musicien à avoir sorti ce duo instrumental galoubet-tambourin à l'adapter à la musique contemporaine. Vous avez commencé dans un groupe de musique folklorique,
comme presque tout le monde à mon âge. Hein. À 10 ans, on allait au groupe folklorique et on apprenait à jouer de l'instrument. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au moment où explosait en France l'esthétique des musiciens de Provence, donc qui parler aussi du passé de cet instrument, à montrer la richesse, montrer la musique du Moyen-Âge, du 16e siècle, du 17e, 18e. Et moi, je me suis dit, mais puisqu'il y a un passé comme ça, pourquoi je ne pourrais pas essayer de rapprocher cet instrument des musiques que j'aime par ailleurs, du jazz, de la musique plus actuelle. Bon, et j'avais envie de trouver cette esthétique, mais garder l'instrument. Et ça a été la chance de ma vie, c'est que j'ai voulu garder cet instrument toujours dans ma panoplie, quoi. Je peux jouer de plein d'autres instruments que j'ai appris par ailleurs, et puis en étant compositeur, on doit savoir jouer un peu de tout pour pouvoir inventer pour les autres aussi et proposer des choses aux autres musiciens. Voilà, et c'était... Mais l'instrument galoubet-tambourin est resté et c'est un marqueur.
Et comment ça s'est passé, votre passage de la musique folklorique à la musique contemporaine? C'est par goût, c'est une rencontre, c'est à un moment donné, vous avez dit, j'ai envie, je suis attiré par le jazz et j'ai envie de réinvestir.
J'avais le goût. Puis, un ami, Jean-Pierre Rémy, a organisé un concert avec Bar Phillips. il a organisé un concert où je faisais la première partie d'un grand musicien de jazz, de free jazz américain, Bernard Phillips. Et on a sympathisé immédiatement. Et lui, il a vu ce que je pouvais faire dans mes tentatives. Et il a poussé ses tentatives au bout de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Et on a fait un disque. Et ce disque m'a sorti définitivement du monde des musiques traditionnelles. Et m'a projeté dans plein d'expériences. Ensuite, Henri Jarier, compositeur de musique contemporaine, m'a invité à jouer de la musique contemporaine dans son festival. Donc, j'ai joué la musique de nombreux compositeurs. Et donc, je devenais de plus en plus porté vers ça. Et voilà, et c'est, une fois qu'on a pris une direction, ben, on la suit. Et puis, elle m'a apporté beaucoup en même temps. J'ai beaucoup appris. J'ai passé ma vie à apprendre. Je continue d'ailleurs, parce que comme je continue à faire des rencontres extraordinaires, je continue à apprendre des autres comment peut fonctionner la musique et essayer d'être le plus ouvert possible et en même temps continuer ce chemin qui m'amène jusqu'à aujourd'hui et que je partage avec d'autres et notamment mon fils.
Oui, vous avez effectivement beaucoup de projets avec beaucoup de personnes. Vous traversez la musique improvisée, musique du monde, musique traditionnelle bien sûr, mais vous faites aussi de la musique pour des films, des pièces de théâtre et encore plein d'autres choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter un premier morceau. C'est le premier morceau de l'album Bay, Mina Daur. Est-ce que je le prononce bien?
Mina Daur en français. Et c'est joué avec un énorme instrument qui s'appelle la fouillara, en ce qui me concerne. C'est la fouillara et c'est comme un gros galoubé. C'est une flûte harmonique à trois trous. C'est comme un gros galoubé. Et Balthazar joue du violon baryton, une invention du luthier marseillais André Sakellarides, malheureusement disparu l'année dernière. Mais c'est son fils, César, qui a fait ce baryton de Balthazar, et César continue maintenant la voie qu'avait tracée son père. Et pour nous, c'était un grand symbole parce que nous étions amis avec André depuis l'adolescence presque, on s'était connus très jeunes, et de savoir que son fils a fabriqué l'instrument de mon fils était quelque chose qui nous rapprochait encore beaucoup.
Et c'est donc le premier titre de cet album. Cet album, il est sorti quand?
Il est sorti l'année dernière.
L'année dernière. Voilà. On écoute ce morceau. Thank you. Minador, ce premier titre de cet album Bay du duo Montanaro avec vous, Mickey Montanaro, et votre fils Balthazar Montanaro, qu'on entend au violon, qui est aussi compositeur, poète et tout un tas d'autres choses. Bay en hongrois, ça signifie intérieur, mais aussi être et soi. En hongrois, il y a donc une histoire aussi autour de cet album.
Ben, oui, parce que c'est d'ailleurs un album suite d'un premier album qu'on avait fait, qu'on appelait Qui, qui était lui-même la suite d'un album un peu de retrouvailles, parce que quand Balthazar a commencé à faire de la musique, je voulais qu'il fasse son chemin tout seul, qu'on joue pas ensemble pendant un bon moment, pour que les gens reconnaissent son talent, ses talents, parce qu'il est aussi dessinateur, il est créateur de bande dessinée, il travaille beaucoup. Il travaille énormément et le succès qu'il peut avoir dans son travail est absolument mérité, parce que il passe beaucoup de temps, il réfléchit beaucoup et je voulais qu'on le reconnaisse comme ça. Puis quand j'ai commencé à arriver dans des endroits où on me disait « Ah, vous appelez Montanaro, vous êtes le papa de Balthazar », je disais « Oui, oui, c'est moi ». Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « Bon, maintenant,
c'est bon.
On peut ». Voilà, et on a commencé, on a fait un premier album de reprise de morceaux de Vendeste, le groupe que je dirige. Et on a fait Vendeste en duo. Et puis, à l'intérieur, on avait mis que 4 morceaux, juste violon et flûte. Et on a trouvé que c'était le son qui nous convenait le mieux et que c'était la piste qu'il fallait explorer. Et donc, on a fait une première exploration avec qui voulait dire l'extérieur. Et on en a fait une avec B. Ben, c'est, en hongrois, c'est tout ce qui va vers le dedans. Mm-hmm. Et on a essayé de tenir cette ligne-là, et on est parti de photos pour créer l'album de Boris Trouplein. On a écrit des poèmes sur ces photos, et à partir de ces poèmes, on a écrit des musiques. Et on écrit toujours à 4 mains, c'est-à-dire qu'un arrive avec un thème plus ou moins prêt, puis on ajoute des choses, des idées pour le transformer, et finalement, à la sortie, c'est toujours un morceau qui nous appartient à tous les deux, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Boris Trouplein ?
Alors, Boris Trouplein est un musicien. Il est joueur de cornemuse et de beaucoup d'autres instruments. C'est un esthète, et c'est un homme qui a une philosophie de vie qui est très intéressante. Il travaille dans la lenteur, et tous les ans, il s'accorde de longues vacances à bicyclette. Et il va très lentement, et il s'arrête aux endroits, et quand il voit quelque chose qu'il trouve beau, il le photographie. Et il crée un album de photos pour chacun de ses voyages, et c'est toujours des photos magnifiques. Et nous sommes, Balthazar et moi, des fans de son travail. Alors il fait pas carrière de ça, il joue surtout de la musique de bal, de musique à danser, pour les ballettes, il trad. mais aussi un spectacle solo très très poétique où il exploite tous les sons possibles de la cornemuse et voilà, et où il parle aussi. Et
il est dans la région ?
Il habite à Toulouse.
D'accord.
Enfin, dans la région de Toulouse.
Et cet album, donc, vous l'avez écrit à plusieurs mains et s'est construit aussi à travers différentes influences. Vous me disiez tout à l'heure qu'on retrouve de tout dans cet album. C'est un peu le propre de votre pratique musicale.
Oui, en fait, quand on est tous les deux, on absorbe tout ce qu'on a rencontré en chemin. Balthazar joue dans un très grand nombre de formations, il joue dans beaucoup de duos avec Pablo Golder, avec Sophie Cavé, il joue en trio avec beaucoup de gens, Sophie Cavé encore, et puis Juliette Menviel, voilà, et donc il fait beaucoup de projets, mais tout ça, chacun a sa propre direction, a sa propre logique. Et moi, je fais pareil. Mais quand on se retrouve ensemble, on essaye de garder la logique de ce duo. Donc, c'est déjà un peu une petite performance de jouer juste pendant tout un concert avec des flûtes et un violon. Tous ceux qui ont essayé se demandent comment on y arrive.
Pourquoi il y a une particularité de ces deux instruments ensemble ?
C'est difficile à les accorder.
D'accord.
Les flûtes, moi sur la durée d'un concert, ma flûte change de tonalité, le violon glisse aussi, mais on arrive, comme on joue surtout avec les oreilles et pas tant avec les doigts ou avec ce qu'on sait, on arrive à être accordé. Et sur la durée d'un concert, ça, voilà, les musiciens entendent ça. Et puis surtout, on est dans la même respiration. Et on travaille ça. Et ce qui nous arrive ensemble, c'est que les gens qui nous entendent n'ont pas d'autres références que ce qu'on produit nous-mêmes. Ce que nous produisons nous-mêmes, c'est la référence. Et donc, comme les gens ont toujours besoin de référence, ils ont toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors, ça donne sur le même morceau. Si on rencontre quelqu'un qui arrive de Grèce, il nous dit « Ah, ben ça, moi, j'ai entendu ça en Grèce. » Un autre qui arrive d'Afrique, il dit « Ah, ouais, on dirait de la musique africaine. » L'autre qui vient d'Amérique latine, il dit « Mais vous jouez des musiques d'Amérique latine. » Mais en fait, non, tout est dedans, mais tout est digéré complètement. Et nous, c'est notre musique, c'est la musique de ce duo. Et c'est ça qu'on défend, bon, voilà. Et qu'on propose, et qu'on fait entendre. Et en même temps, ça, ce qui est assez marrant, c'est que les gens ne sont pas désarçonnés. Mmh. Le public qui écoute n'est pas désarçonné. Il suit, il se laisse emporter. Puis au bout d'un moment, voilà, tout le monde arrête de chercher des références et ils se laissent emporter parce qu'ils entendent, quoi.
Eh bien, je vous propose de lancer cette invitation aux éditrices auditeurs en écoutant un autre morceau qui s'appelle « Désert » et on en dira quelques mots ensuite. Thank you. C'était Désert, ce morceau issu du dernier album du duo Montanaro qui s'appelle Bay et qui est sorti en 2020. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce titre, Mickey Montanaro ?
Alors, si on écoute bien, le violon baryton est équipé de ressorts. Et donc, ça fait un effet de réverb qui sont montés sur le chevalet du violon. Et moi, je joue d'une flûte à trois trous. Mais traversière, flûte Peul, et je m'en sers comme d'un galoubet, mais un galoubet qui serait une flûte traversière, donc qui a un son légèrement différent, et c'est un hommage aussi à notre ami Draman Dembélé, qui est un très grand flûtiste, qui lui joue vraiment de la flûte Peul, et avec qui on a fait un disque au Burkina Faso, où Balthazar jouait aussi. Et ils ont le même âge, ils sont de la même génération, un né au Burkina Faso, l'autre en Provence, mais ils se sont entendus comme deux frères, et tous les deux m'appelaient papa. Et voilà, on a un peu fixé cette ambiance de tournée africaine avec des longues routes et du paysage qui défile, et voilà.
Le voyage, il fait aussi partie de votre musique. Vous voyagez beaucoup ?
J'ai eu la chance, oui, de voyager beaucoup et d'être invité toujours pour la rencontre. J'ai jamais trop voulu faire de la tournée pour de diffusion. Donc j'ai toujours proposé aux gens qui m'invitaient d'organiser de la rencontre avec les musiciens de l'endroit pour apprendre, pour essayer de comprendre comment ça marchait. Puis finalement, au bout de quelques temps, on a toujours essayé de collaborer, d'inventer de la musique. Et tout ça, ça permet de nourrir la base de la musique que je pratique. Dans l'échange, on apprend énormément et parfois j'apporte aussi un regard différent sur une culture un peu qui arrive à un bout d'achèvement en se disant ça y est, on ne peut pas aller plus loin. Et puis le regard d'un étranger là-dessus fait que, ah ben oui, finalement on peut aller plus loin. Bon, ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé en Colombie. On a tenté des choses à Cuba aussi, alors que les musiciens cubains sont des musiciens extraordinaires. Jouer un morceau avec 11 mesures et pas 16, c'était quelque chose qui était impossible. Et ça, pendant toute la tournée qu'on a fait à Cuba, tous les musiciens qui venaient nous voir jouer arrivaient à cette... Parce qu'ils s'étaient tellement formatés à 16 qu'il leur manquait quelque chose. Ils disaient, c'est pas possible. Et à la fin des concerts, ils venaient tous nous dire, mais comment vous faites pour imaginer une musique à 11 mesures? Je disais, ben, on chante, c'est dans la tête, il y a des paroles, il y a une ambiance qui fait que c'est pas la peine d'aller jusqu'à 16 pour entrer dans le format. À 11, on reprend au début, et puis voilà, ça permet à tout le monde de se questionner, à nous, aux autres, et surtout, c'est rigolo parce que ça passe. Les gens qui sont pas musiciens n'entendent pas qu'il y a que 11 mesures, quoi. Ils entendent un morceau, quoi.
Mais c'est un peu votre histoire, finalement, d'avoir poussé la musique provençale traditionnelle à sortir d'elle-même, et vous le faites aussi en rencontrant d'autres cultures musicales.
Oui, ça fait partie de ça. Et Balthazar, lui aussi, continue. Alors lui, il part sur un instrument qui est moins marqué, mais quand même, il connaît bien la musique d'ici, puis il s'intéresse aux musiques de France, et puis de Hongrie, puisqu'il est quand même aussi hongrois. Par sa D'accord. mère, et donc il a aussi des projets avec la musique hongroise, et voilà, donc musique occitane aussi, le groupe Sarai, c'est à partir de textes occitans anciens, et c'est il est
alors parlons justement de ses projets de Balthazar Sarai, c'est un groupe avec lequel il va jouer notamment cet été, où il joue déjà,
mais là il va y avoir beaucoup de concerts de Sarai cet été en Europe et aussi dans la région. Donc il faut être à l'affût de ces dates parce que c'est un très beau spectacle. Moi j'ai eu l'occasion de l'entendre deux fois en entier. Et c'est pas toujours qu'on peut le faire, mais là, j'ai pu le faire. Et c'est une belle balade dans des textes anciens et des musiques d'aujourd'hui.
À noter qu'on peut avoir davantage d'informations aussi sur votre site internet.
Et sur le site de la compagnie Balthazar Montanaro.
Que vous tapez sur un moteur de recherche.
Voilà, on trouve ça facilement. Compagnie Balthazar Montanaro, qui fait partie de la coopérative Grand Bonheur. Quand nous avons créé, il y a presque 20 ans maintenant, cette coopérative, qui a permis, avec des musiciens comme Frédéric Nefché, de mettre en commun des expériences très différentes et de devenir très solide face à tout ce qui peut arriver à un groupe, à une compagnie, à tout ça, parce que il y a une solidarité, ce qui fait que on a réussi à s'aider, puis à faire des choses ensemble. Par exemple, le prochain disque que nous sortons avec le groupe Zef de Balthazar a été coaché. J'étais invité dans ce disque comme chanteur. C'est Balthazar qui avait choisi les morceaux, qui sont tous des compositions à moi, mais c'est lui qui avait choisi les morceaux et les chansons, et ils ont décidé de les rejouer à leur façon. Ils ont fait des arrangements, et moi je suis pas un chanteur professionnel, donc pour réaliser ça, pour chanter et porter ça, on avait demandé à Martin May, qui est aussi un membre de la coopérative, d'être notre coach vocal. Et il a joué ce rôle parfaitement, tout en étant lui-même musicien, compositeur, chanteur, leader de groupe. Il est venu passer une semaine au studio avec nous pour tout caler, mais avec un an de préparation avant la semaine de studio.
C'est important de citer ce Grand Bonheur, puisque c'est aussi la structure physique, matérielle, cette coopérative qui soutient vos divers projets musicaux. Vous venez
Il faudrait longtemps pour en parler, parce que c'est le Grand Bonheur, ça nous dépasse. C'est en même temps de la diffusion, de l'accueil de spectacles. C'est certainement bientôt des salles aussi, tout ça, mais voilà, c'est surtout une atmosphère de travail et d'aide des uns envers les autres, d'écoute. Et c'est quelque chose, quoi, quand on fait le type de musique que je fais, de savoir que quelqu'un qui vient du slam et qui s'intéresse à ça. Ou quelqu'un qui vient de la chanson aussi est porté par ce qu'on propose, quoi. Voilà.
Alors, vous avez cité tout à l'heure ce spectacle musical Sarai qu'on va pouvoir voir cet été sur les routes en Provence, peut-être?
Certainement, oui. J'ai pas les dates.
Vous avez pas les dates.
J'ai pas les dates en tête, mais on les trouve sur le site et elles sont très souvent dans les newsletters de Grand Bonheur.
Vous pouvez et de la compagnie. Vous abonner, c'est l'occasion. Et aussi, ce groupe Zef qui reprend certaines de vos compositions. C'est un projet où vous avez déjà des dates aussi de tournée?
Alors, le disque est enregistré. Il est en cours de fabrication et avec les délais de fabrication de vinyle, on ne sait pas.
C'est un vinyle.
Oui, c'est un vinyle.
C'est important de le noter aussi, c'est un support particulier.
C'est un support particulier. On voulait faire ça, c'était une occasion à marquer. Et comme on n'a pas d'informations sérieuses et sûres sur les délais, on attend d'avoir le disque pour préparer la tournée de présentation du disque, parce que sinon ça sert à rien. Et voilà. Et donc il existera en vinyle, et puis après on pourra le télécharger, bien entendu, et l'écouter dans tous les sites, même si moi je préfère toujours le côté physique. Je suis un vieux jeu. Moi, des vinyles, j'en ai fait alors que c'était la fin du vinyle déjà. Et aujourd'hui, je reste attaché au support physique. Parce que aussi, et c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on découpe tout. C'est-à-dire, on écoute un spectacle de Blanche Gardin et on va garder trois phrases. Mais Blanche Gardin, elle a écrit un spectacle complet avec un début, une fin, et les trois phrases qu'elle dit qui font punch à un endroit, elles viennent après tout ce qu'elle a expliqué. Et on comprend ces trois phrases, et on comprend l'humour de ces trois phrases. Si on n'a pas entendu ce qu'il y avait avant, on pense que c'est une provocation gratuite. Voilà. Et pour nous, pour la musique, c'est pareil. Chaque fois qu'on fait un album, c'est une œuvre. Et aujourd'hui, le commerce oblige les artistes à produire des singles. Il faut produire un titre qui va faire le buzz.
À faire de l'espace-temps très réduit et très ciblé, alors voilà. Que vous faites l'inverse, vous prenez le temps de la rencontre, du travail.
Et nous, le public, il nous suit depuis longtemps, et il sait que quand il va venir nous écouter, là, il va se laisser porter, il va faire un voyage avec nous, un grand voyage. Et c'est pas possible de faire un grand voyage en faisant des spots. Je veux dire, si on monte dans le train à Paris pour aller à Istanbul, si on descend à Strasbourg, on n'a rien compris du voyage, quoi.
Effectivement.
Voilà. Et il faut le temps pour aller à Istanbul, en train, par exemple.
Mais je vous propose une autre partie du voyage en musique avec ce titre Ausset.
Ausset, ça veut dire l'oiseau.
Qui est aussi issu de cet album Bay. On en dira quelques mots ensuite. Thank you. Ce titre issu de l'album Bay, où vous participez à votre, avec votre fils à cet album, puisque c'est le duo Montanaro avec votre fils Balthazar, vous, Mickey Montanaro. Quelques mots sur ce titre. Vous avez dit avant qu'on l'écoute que ça signifiait l'oiseau. Effectivement, on entend l'oiseau.
On entend un oiseau au début, et puis après on continue là, sur ça. Et puis il y a une, je voulais dire une chose, c'est que c'est encore du galoubet tambourin, il faut le savoir. Et on aime beaucoup avec Balthazar inverser les rôles, c'est-à-dire souvent je te prends le riff et c'est lui qui prend la parole de soliste et c'est moi qui accompagne. Et d'autant plus c'est facile quand il y a le tambourin aussi, puisque je deviens batteur. Et bassiste en même temps, puisque je peux faire la basse à la voix aussi. Et aussi, on entend une légère touche pour le disque, puisqu'en direct, en concert, on joue en acoustique le plus souvent, dès qu'on peut. Et quand on n'est pas en acoustique, on met juste une paire de micros pour monter le volume, des micros d'ambiance, pour garder cet équilibre qu'il y a entre ces instruments. Et dans le disque, il y a un petit traitement électro qui est très discret, mais qui apparaît. Et c'est une licence qu'on a donnée à notre ingénieur du son, et celui Damien Dulot qui a fait le mixage, et qui est très très fin et qui s'est amusé avec les sons qu'on avait proposés d'en ajouter un peu. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec Christian Sébille dans un projet qui s'appelle Électro-aimant, donc galoubet tambourin traité, alors là, vraiment beaucoup, et en dialogue. Et je pensais aussi à ça, parce qu'on va jouer à Aix, en Provence, le 26 juin, dans une formule trio avec Jean-François Vrault, qui est aussi un violoniste, détourneur d'instruments, violoniste à ressort, violoniste à toutes sortes de sons ajoutés à son violon. Et voilà, donc ça...
À quel endroit, avec son
ça sera à la Fondation Vasarely.
Électro-aimant.
Enfin, ça sera, à ce moment-là, le spectacle s'appellera « Ici et d'après ». Voilà, mais c'est une chose importante. Voilà, donc c'est vrai que la culture du duo et du trio est une chose qui est familiale. Bon, parce qu'on aime bien ces formules-là, parce qu'on a la pleine expression de ce qu'on est, de ce qu'on veut raconter, et en même temps, on se met au service de l'autre. Et c'est le bon. Je parle aussi du projet avec Sissi Sou, un projet entre musique chinoise et musique provençale. Mais en fait, c'est devenu la musique de ce duo qui s'appelle La Vente des Jasmins.
À noter que Sissi était venu l'année dernière dans ces mêmes studios pour présenter cet album. Vous pouvez, auditrice, auditeur, réécouter cette interview sur notre site fréquencemistral.com.
Ah, voilà, ça, c'est une chose que je n'apprends pas parce que je savais qu'elle était venue, mais je ne savais pas qu'on pouvait encore l'écouter.
Si, bien sûr. Il y a quelques extraits de morceaux aussi de cet album.
Voilà.
Vous avez aussi tout un tas d'autres.
Alors il y a un projet de Balthazar qui est très intéressant parce que on a parlé de voyage. Alors nous voyageons beaucoup, mais nous voyageons toujours à partir de Corrance. Nous voyageons à partir de notre village, de l'endroit où on a créé des conditions de travail, puisque moi j'ai proposé, quand la DRAC a souhaité me conventionner, j'ai proposé d'être conventionné bien sûr, mais aussi de créer un lieu dans mon village, où on pourrait accueillir tous les gens qui, à partir des musiques traditionnelles, s'intéressent à la musique de notre temps, à la musique du futur même, et au croisement de musique. Voilà ce qui a donné naissance à un lieu qui s'appelle Le Chantier. Et je suis très fier parce que ça fait plus de 20 ans maintenant et le chantier continue à vivre. Et Balthazar, lui, a aussi un autre projet sur place qui est un projet de mémoire. Et ça s'appelle la boîte à mémoire. Il collecte auprès de gens des histoires locales, des choses qui se sont passées, des choses historiques, des choses simples aussi, des traditions culinaires, des traditions. Et il met ça en musique, il le monte, et ça, on peut l'écouter dans une boîte qui, sur différents festivals, sur une place, peut être installée pendant un moment.
Donc il a un dispositif d'écoute.
C'est un dispositif d'écoute. C'est comme une cabine téléphonique. Il y a le combiné du téléphone et on écoute et les histoires sont en continu. C'est-à-dire, ça marche jour et nuit pendant un certain temps. Et chaque fois que quelqu'un décroche, il va avoir une histoire qui lui est racontée. Et quand c'était installé à Corrance, moi, il m'arrivait de rentrer à 1h du matin et de trouver quelqu'un accroché à la cabine en train d'écouter cette boîte à mémoire. Et donc, et il fait ça en solo, mais il fait ça aussi avec des enfants des écoles. Donc il y a tout un processus.
Sur leurs histoires ou sur le patrimoine?
Sur le patrimoine, sur les histoires que les grands-parents peuvent raconter, sur la langue, sur chaque fois, chaque enfant a une façon d'aborder. Et Balthazar, lui, rassemble tout ça, le met en musique et le fait écouter aux gens. Et ça, avec des parcours musicaux aussi dans les villages, tout ça.
Il nous reste juste une minute, puisqu'on va terminer par un morceau assez long de 7 minutes, extrait aussi de cet album que vous proposez avec votre fils, de cet album Bay. C'est le titre Causas Perdudas.
Ça veut dire
très mal au provençal.
Les causes perdues, ça peut être les choses perdues, et puis aussi les causes. Les causes perdues, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et aujourd'hui, il faut, je pense, donner beaucoup de place aux causes perdues, parce qu'on va en avoir besoin. Il faut de l'utopie, parce que la société actuelle ne nous propose pas d'utopie, elle nous propose simplement d'être les esclaves d'un système qui va mourir. Il ne peut pas faire autrement.
Eh ben merci pour cette note positive, en tout cas, note d'utopie et d'espoir pour l'avenir. J'invite encore une fois les auditrices et auditeurs à aller voir sur votre site de la compagnie Montanaro, parce que vous avez énormément de projets en cours et c'est ce que vous défendez d'ailleurs.
Voilà, évidemment, la diversité, et puis il n'y a pas de, c'est pas tant commercial que ça, quoi.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu.
Merci à vous pour l'invitation et à bientôt.
À bientôt. On écoute donc le titre
« Cause perdue ».
Mm-hmm.